pour commenter l'actualité, Jackie Isabello. Bonjour, vous êtes
bonjour,
communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Vous êtes où? J'aime bien vous demander à chacun où vous êtes confiné.
Je suis à Issy-les-Moulineaux.
D'accord, donc pas loin de Paris.
En région parisienne.
Alexis Bachelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien député PS, vous êtes chef d'entreprise, AB Consulting, vous êtes confiné en région parisienne, vous aussi?
À Colombes, oui.
À Colombes. Pascal Bataille, bonjour.
Bonjour Valérie.
Alors vous êtes certainement dans le sud-ouest.
Exactement, je suis au Cap Ferret, ce qui n'est pas forcément l'endroit le plus désagréable pour être confiné, mais néanmoins on respecte les consignes, bien entendu.
Et on rappelle que vous habitez au Cap Ferret parce qu'il y a toute une polémique sur ces Parisiens qui ont, débarqué un petit peu partout dans les résidences secondaires. Vous y habitez une grande partie de l'année. Je rappelle Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Vous avez un hôtel d'ailleurs au Cap Ferret. Pour vous resituer, on se souvient de votre duo avec Laurent Fontaine et puis Najwa El Haïté, je ne sais pas si elle est arrivée, qui devrait participer avec nous à l'émission. Donc édition spéciale encore une fois coronavirus, un confinement non respecté, faut-il des mesures plus strictes, une crise sanitaire avec comment faire pour continuer à travailler, ces injonctions contradictoires, aller travailler mais rester chez vous, et puis un confinement qui risque d'être beaucoup plus long, et puis toujours cette polémique autour des masques où on se demande s'il n'y a pas eu quand même un discours qui s'est adapté à la pénurie de masques, où on nous a dit non, il n'y a plus de masques, les masques ne servent à rien, mais en fait c'est parce qu'il n'y en avait pas. On va y revenir. Je voulais faire un petit tour de table de ce qui a retenu dans cette actualité votre attention. Jackie, c'est un coup de gueule pour commencer?
Oui, c'est un coup de gueule, c'est un constat. Je crois que depuis plusieurs années, malheureusement, la date de départ, de mon point de vue, se situe au moment des attentats, s'installe ou revient à la mode une forme de langage militaire, puisque après avoir déclaré le pays en guerre lors des attentats, on s'est aperçu lors du discours d'Emmanuel Macron que effectivement cette doctrine langagière s'invitait à nouveau. Et je trouve que on est de plus en plus confronté à quelque chose qui met sous tension la société de manière générale au moment des attentats, certes, lors de la catastrophe de Lubrizol à Rouen aussi, là au moment du coronavirus. Et ce qu'on perçoit, c'est que on a besoin quand même de retrouver une certaine forme de culture militaire pour être au service de tous et protéger tout le monde, et que cette culture qui permet de faire nation, qui nous a été inculquée malheureusement à travers un exercice militaire, mais il faut retrouver tout ça. Je donne trois exemples. Un, lors des attentats, on avait aucune conscience de ce qu'il fallait faire, de la manière dont on pouvait se confiner, dont on pouvait se mettre à disposition. On n'était plus diplômé de secouristes, il y avait très très peu de gens qui le faisaient. Moi, je l'avais pas remis à jour, donc vous voyez, je suis le premier à me taper dessus. Au moment de Lubrizol, on s'est aperçu que malgré des documents qui sont remis à la population quand on habite dans un site Céveso, enfin, en tout cas quand on habite proche d'un site Céveso, les consignes, les gens ne les connaissent pas. C'est-à-dire qu'on fait sonner des sirènes, ils ne savent absolument pas ce que ça veut dire. Et là, lors du coronavirus, on s'aperçoit pareil que la société est absolument pas prête. Alors aujourd'hui, on a une lecture très médicale, mais ce que savent faire les militaires, c'est organiser de manière générale une société en temps de guerre, parce qu'on s'aperçoit que on n'a pas pensé au pauvre chauffeur de camion qui, lui, livre des denrées alimentaires qui sont quand même hyper importantes, et il peut même pas se laver les dents, il peut même pas prendre de l'eau, il a rien à sa disposition.
Cette organisation on n'était pas, effectivement, ça fait 80 ans qu'on n'a pas connu de guerre aussi.
Et si on devait définitivement trancher le débat sur le SNA, ce fameux service le SNU, on en serait là. Il faut véritablement qu'on reprenne un peu de temps pour réapprendre des gestes.
Najwa nous a rejoint. Bonjour,
oui,
Najwa.
Bonjour,
Najwa, elle a été. Merci d'être avec nous. Pourtant, vous étiez où, perdu dans votre cuisine ou dans votre salle de bain?
Dans ma salle de bain, non, je rigole.
Voilà. Bon, non, je vous demande pas.
Je suis ravie d'être parmi vous, confinée, mais ravie.
Vous, Ben, confiné comme tout le monde, vous aviez un coup de cœur, vous?
Oui, alors mon coup de cœur se porte sur une chronique écrite par l'écrivain Kamel Daoud dans le journal Le Point. Donc cette chronique est intitulée « Le coronavirus va-t-il restaurer la laïcité ?» Donc Valérie, il faut bien le dire, cette chronique a irrité certains. Pour ma part, à la lecture de celle-ci, bah, ça m'a fait plutôt sourire. Alors que dit Kamel Daoud pour ceux qui ne l'ont pas lu? Donc il souligne avec une pointe d'humour que les religions prennent le chemin de la discrétion face à la pandémie.
Et donc, pas tous, pratique... hein. Pas tous, parce qu'il y a juste signalé l'imam de Brest qui a dit que prier suffisait, enfin, et puis aux États-Unis aussi, hein, que ça suffisait pour enrayer la pandémie.
Donc, allez-y, pardon, je vous ai interrompu. Non, il n'y a pas de souci, mais ils ne sont pas, j'allais dire, majoritaires. Donc, lui constate que la pratique religieuse se fait plus dans l'intimité, donc chez soi. Et donc, la loi de 1905, c'est à laquelle, c'est à celle-ci qu'il fait référence, n'a pas su l'imposer. Or, le virus l'a fait, d'où la pointe d'humour. Autre pointe d'humour, il y évoque l'islamiste qui a peut-être, selon lui, rencontré une souche plus féroce que lui. Et selon, il parle des journaux anglais, où Daesh aurait appelé ses soldats à ne pas fréquenter l'Europe pour cause de virus, tout en demandant à ceux qui visent déjà d'y poursuivre leur base œuvre. Donc ça va être compliqué pour eux, puisqu'ils sont, comme tout le monde, confinés. Donc ma conclusion, moi, quand j'ai lu cette chronique, j'en ai déduit que ce virus, il a une double facette, c'est-à-dire une facette obscure par les morts qu'il entraîne, mais lumineuse du fait de l'humilité et de la discrétion qu'il impose. Et c'est comme ça que j'ai pu traduire, j'allais dire, son titre et le fond de sa chronique, Coronavirus va-t-il restaurer la laïcité? Mais je peux vous dire que ça en a hérité plus d'un.
Oui, ça a dû faire effectivement beaucoup réagir. Pascal Bataille.
Alors déjà, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Najwa, parce que c'est vrai qu'il y aura des effets positifs, il faut le dire, il faut rester optimiste. Il y aura des effets positifs de cette crise, forcément, comme dans toute crise, et si ça peut servir à restaurer, à renforcer, entre autres choses, la laïcité, ce sera tant mieux. Mais il faudra il faudra en parler plus tard, parce que pour l'instant, l'heure est à l'urgence, l'heure est à la solidarité, bien évidemment, et puis aux mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus. Et là était mon coup de gueule du jour, c'était de voir les forces de l'ordre qui sont chargées des contrôles et auxquels on n'a pas fourni de gants et de masques pour se protéger et pour protéger aussi des gens qui sont contrôlés, parce qu'il faut rappeler que cela sert dans les deux sens, bien entendu. Jérôme Salomon a été, à mon sens, d'une irresponsabilité totale en disant l'autre soir à la télé que les masques ne servaient à rien.
Il y a cette polémique qui commence aujourd'hui.
Voilà, on sait bien que c'est un mensonge, on sait bien qu'ils disent ça parce qu'ils ne peuvent pas fournir des masques, et bien évidemment qu'il faut éviter dans ce cas-là ce qui se produit, c'est-à-dire des pillages, du marché noir, des contrefaçons, etc. Mais néanmoins, il faut arriver à parler aux Français comme des adultes. Quand on voit que le président Macron, dans son allocution, est incapable de prononcer le mot confinement, et nous parle de 15 jours comme si on était des enfants, comme si on n'était pas capable de comprendre que ça allait durer plus longtemps et qu'il fallait que ça dure plus longtemps, eh bien, on ne peut pas demander après aux Français de se conduire en adulte si on ne leur parle pas.
On va y revenir, parce qu'effectivement,
on met en danger les forces de l'ordre. Pourquoi? Pour ne pas, soi-disant, affoler les populations. Mais enfin, arrêtons de nous prendre pour des idiots.
Ouais. Alors, on va y revenir à tout ça, évidemment, parce que c'est aujourd'hui l'un des grands sujets, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de mal, à comprendre ce discours de il n'y a pas de masque, mais c'est pas grave parce que ça sert à rien, et puis des soignants qui réclament, et puis cette espèce de double discours sur les masques. Alexis Bachelet, vous vouliez évoquer quoi?
Non, bah moi j'ai surtout envie d'évoquer effectivement les gens qui sont là pour nous protéger de cette épidémie et nous soigner, et les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui pour se protéger eux-mêmes. Ce que je trouve inquiétant, c'est qu'effectivement, au-delà des soignants dans les hôpitaux, il y a aussi les médecins de ville qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui reçoivent. Moi, j'ai un cabinet juste à côté de chez moi, donc je vois bien qu'ils sont un petit peu effarés, effectivement, de ne pas pouvoir se procurer pour eux-mêmes le matériel nécessaire à leur propre protection, parce que on l'a vu en Italie, il y a énormément de médecins qui, dans les premières semaines de l'épidémie, sont tombés malades, et certains même sont décédés hein, en Italie. Et donc évidemment, moi je trouve ça un petit peu effrayant qu'il n'y ait pas eu des dispositions de prise pour permettre aux gens qui sont en première ligne, hein, parce que les personnels médicaux, que ce soit en hôpital ou dans les cabinets en médecine de ville, c'est les premiers à être, je dirais, au contact, puisque les gens malades viennent les voir. Alors je sais qu'ils ont mis en place des procédures de télédiagnostic, hein, c'est-à-dire n'allez pas chez votre médecin, il va vous consulter en ligne, mais enfin il y a encore des gens qui n'ont pas le choix, qui viennent dans les cabinets médicaux ou à l'hôpital, et c'est vrai que je trouve ça un peu difficile à comprendre, en fait, pour être honnête. Après, l'épidémie, elle a commencé à la fin de l'année dernière en Chine, elle s'est propagée dans un pays voisin, l'Italie, et je comprends pas, moi, en fait, qu'on ait pris aussi peu rapidement conscience que l'Italie, c'était juste à côté, et que de toute façon, on n'allait pas échapper à la propagation de l'épidémie chez nous, et donc prendre des mesures d'anticipation. Je pense qu'il faudra quand même, à un moment donné, qu'on ait une sorte de commission d'enquête pour bien comprendre l'enchaînement des événements qui nous conduit dans une situation un petit peu d'urgence. Ouais. C'est-à-dire que on est passé en l'espace de moins d'une semaine quand même de vous pouvez aller voter, il n'y a pas de problème, à rester chez vous, confiné, et peut-être même que dans quelques jours on nous dira qu'il faut même plus aller travailler, parce qu'il y a encore des choses qui sont pas très compréhensibles, je trouve, du point de vue du concitoyen qui suit cette crise.
Oui, on va y revenir dans un instant. Je vais vous faire écouter les propos d'Emmanuel Macron qui, moi, m'ont absolument sidéré hier sur ce côté en même temps où il a expliqué pourquoi, c'est ce qu'évoquait Pascal Bataille, il n'a pas dit le mot de confinement parce que les Français ne seraient pas capables de le comprendre. Mais le résultat, il est là, c'est qu'on a des gens qui sont dans la rue, qui continuent à faire du jogging. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'évoquer le jogging dans une intervention présidentielle? On va y revenir avec vous, 0826-300-300, et puis... vous êtes nombreux à nous raconter qu'effectivement vous voyez des gens autour de chez vous qui sont dehors, des enfants dehors dans la rue, et puis un témoignage d'un auditeur qui nous dit qu'il y a des gitans qui ont été contaminés et dont 4 sont morts, alors bon, à vérifier, et que personne n'en parle, qu'il y a des situations très inquiétantes à certains endroits. À tout de suite avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat
avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, pour revenir sur ce confinement non respecté. Est-ce qu'il faut des mesures plus strictes, des amendes plus importantes? Parler tout de même de ces quartiers. Moi, j'ai entendu Julien de Normandie ce matin sur Sud Radio, à qui Patrick Roger posait la question des quartiers difficiles. Alors, c'est toujours une question compliquée à aborder, où le couvre-feu, enfin pas le couvre-feu, mais où le respect du confinement n'était pas observé. Et il répondait oui, non, c'est à Versailles aussi, il y a des gens qui sortent dans la rue. Donc c'est sûr qu'avec des réponses comme ça, on va pas aller très très loin. Je vous propose de réécouter Emmanuel Macron hier à propos du confinement. Alors, je sais pas si on a le son.
Je vois les gens qui continuent à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage dans certains endroits, ou à se ruer dans les marchés ouverts, n'ont pas compris le message. Donc, de dire au moins 1 mètre de distance, on ne se serre pas la main, on se lève avec du gel, que tout le monde fasse ça, qu'on ne sorte qu'en stricte nécessité pour aller faire ses courses une fois par jour pour prendre l'air, etc., et qu'on ne se regroupe pas, ça c'est fondamental, c'est le plus important. Ce que j'observe, c'est que ça n'est pas aujourd'hui parfaitement respecté, et qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui prennent encore ça à la légère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas réaliser ou ne réalisent pas que c'est à la fois pour eux et pour protéger leurs proches.
Voilà. Alors, est-ce que vous êtes étonné de l'étonnement du président de la République? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier.
Moi, je ne suis pas étonné de l'étonnement du président de la République, mais je pense que personne doit être étonné. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, le président de la République a parlé de ce fameux devoir de vigilance, rappelez-vous. Ça a lancé un grand débat parce que il disait ben voilà, comme dans certains pays, il faut certes compter sur l'État, mais l'État ne peut pas tout, et la première cellule de formalisation de l'État, c'est l'implication du citoyen. Et comme le rappelait Tavoilot dans son bouquin, si la première cellule, le citoyen, dysfonctionne, eh bien la démocratie n'a même pas lieu d'être. Et sur ce devoir de vigilance, que n'a-t-on entendu ? C'est de la délation, ça n'a rien à voir avec ce que doivent faire les citoyens, etc. etc. Je crois qu'à tous les étages, on n'est pas habitué à se mobiliser. Je le disais tout à l'heure, dans tout un tas de domaines, il y a très peu de gens qui ont leur secourisme, il y a très peu de gens qui sont engagés dans des...
Non mais on en est, je suis d'accord avec vous, Jackie, mais voilà, on n'en est plus là aujourd'hui.
Ce que je veux dire, Valérie, c'est que c'est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas demander du jour au lendemain à quelqu'un de vous dérouler 42 km si jamais il ne s'est pas entraîné tous les matins, pour reprendre une métaphore qui a l'air de... Donc, et je pense que cet état d'esprit de faire attention, il est encore inexistant dans une partie de la société. Je ne suis pas en train de les expliquer.
On
n'est pas formé à ça.
Mais on a vu ce qui s'était passé en Italie, on a vu ce qui s'était passé en Chine. Comment il faut expliquer les choses aux gens?
Je rebondis sur ce que vient dire Jackie Isabello et je partage son avis. C'est un état d'esprit. Le gouvernement, en effet, semble pour l'instant plus compter sur la responsabilité collective des Français et sur les amendes pour sanctionner en fait les réfractaires au confinement. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est vraiment un état d'esprit français qui se distingue de la culture en Asie. Parce que en Asie, il faut le rappeler, donc en Chine, au Vietnam ou à Taïwan, il n'y a pas de problème de contrainte ou de souci de liberté individuelle. Ils utilisent les dernières nouveautés technologiques, parce que ça, c'est important aussi de le souligner, pour aider à contenir et analyser la progression du coronavirus, mais aussi pour contrôler de manière stricte les habitants. Donc vous avez des drones qui, surveillent les habitants réfractaires en les appelant à retourner chez eux. Vous avez aussi des drones qui sont munis de caméras, qui viennent prendre la température de leurs habitants sur les balcons ou en demandant aux habitants de s'approcher des vides. Donc tout ça pour vous dire que c'est une autre culture. Là, en France, on est dans une culture où on respecte les libertés individuelles et nos démocraties ne sont pas prêtes pour des questions de santé
je vais mettre les pieds dans le plat. Quand on voit qu'en Seine-Saint-Denis hier, des pompiers, des policiers sont tombés dans un guet-apens, ils sont sortis pour aller éteindre des feux de poubelle, une vingtaine de jeunes encagoulés ont caillassé des soldats du feu et les policiers venus à la rescousse, c'est le Parisien qui raconte ça, des barres de fer, des pavés ont été lancés sur les forces de l'ordre. C'est hier soir que ça s'est passé. Donc je vous parle même pas de jogging, je vous parle de comportement absolument scandaleux.
C'est inadmissible. Et puis
Pascal Bataille.
Najwa a posé une question essentielle, c'est jusqu'où peut-on aller dans le non-respect des libertés individuelles au nom de la sécurité de tous. Et évidemment, les cultures orientales et la nôtre n'ont pas du tout la même façon de réagir à une crise telle que celle que nous vivons. Néanmoins, je pense que ça doit nous interroger justement sur des concepts qu'on nous a mis en tête depuis un certain nombre d'années, comme celui du principe de précaution. Aujourd'hui, on est très fort pour éviter des accidents de la route et on dépense des moyens considérables pour réduire le nombre de morts qui est à peine de 3000 par an, et on n'est pas capable aujourd'hui d'être préparé à une crise sanitaire dont Alexandre Adler, si vous avez lu ce livre paru en 2005 sur le rapport de la CIA, en deux pages décrivait chaque
minute et chaque instant. C'est-à-dire que ce scénario que nous vivons à l'échelle planétaire, il est décrit dans un livre paru en 2005 et comme devant intervenir dans les années 2020. Pourquoi et comment peut-on concevoir que au niveau de nos États, on soit aussi peu préparé aujourd'hui, que nous n'ayons pas des gants en quantité suffisante pour la population, que nous n'ayons pas des masques en quantité suffisante, que certaines cliniques privées aujourd'hui aient des lits en réanimation qui sont libres, mais qui ne peuvent pas être utilisés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des gants et des masques pour à fournir au personnel, etc., etc. C'est-à-dire comment aujourd'hui peut-on percevoir l'impéritie de nos gouvernants ? Et est-ce que cela va impliquer qu'on mette en danger nos libertés individuelles parce que les précautions n'ont pas été prises, les bonnes précautions n'ont pas été prises en temps utile. Donc c'est une vraie question à laquelle évidemment la réponse est complexe. Il ne s'agit pas de dire que le modèle chinois ou le modèle coréen sont des exemples à suivre. Il s'agit de dire aujourd'hui néanmoins que si vous me posez la question de savoir est-ce que les mesures doivent être durcies et est-ce que le confinement doit être durci, je réponds personnellement oui, parce qu'il s'agit de préserver la santé et la vie des gens. Bien évidemment, et là je pense que la question ne se pose pas.
Et il faut faire quoi alors ? Vous vous dites quoi ? Durcir, c'est quoi ? C'est mettre des amendes plus fortes ? C'est interdire toute sortie ? C'est quoi ?
Je pense que c'est d'abord expliquer et parler aux Français. Quand on voit la responsabilité de certains médias, quand on voit un Michel Simès qui a décrédibilisé les risques, enfin, qui a parlé d'une petite grippe pendant des jours et des jours sur les antennes du service public, excusez-moi, il faut parler aux gens de façon claire, déjà les responsabiliser. Et ensuite, effectivement, il faut prendre les mesures pour empêcher les déplacements qui ne sont pas nécessaires, pour parler aux gens en leur disant « restez chez vous, c'est vital ». Pour vous, parce que, en expliquant, en donnant de l'information et pas en faisant un discours en demi-teinte comme nos dirigeants le font depuis un certain nombre de semaines.
Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le problème initial, c'est que on n'a pas été préparé à l'ampleur de cette crise sanitaire que nous vivons. Rappelez-vous qu'il y a 2 mois, Agnès Buzyn, quand elle était encore ministre de la Santé, expliquait que, grosso modo, le risque de contagion depuis la Chine vers l'Europe et la France était quasi nul, infime. C'est ça qu'elle a dit il y a 2 mois quand même. Et rappelez-vous aussi que la veille de la fermeture des écoles, des lycées, des universités, qui à mon avis est le premier moment où on a commencé à rentrer dans la compréhension de ce qui se passait, dans la gravité de ce qui se passait, la veille, Jean-Michel Blanquer disait que probablement ça n'était pas nécessaire de fermer les écoles. Donc comment voulez-vous, quand vous avez un gouvernement, des ministres en charge de ce dossier, parce que les Français, qu'est-ce qu'ils écoutent ? Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui ? C'est une parole forte de l'État, du président de la République, du gouvernement. Si le gouvernement n'envoie pas des signaux clairs, si on vous dit, d'un côté on ferme les cafés, les commerces, mais demain vous allez voter, comment voulez-vous que les Français comprennent quelque chose ?
Ça fait 3 jours, 4 jours, même on est vendredi, qu'on est sur ce sujet-là. Aujourd'hui, comment on fait aujourd'hui on en est à un point où
le confinement tel qu'il a été mis en œuvre et décrété, il date de lundi. C'est pas il y a 10 jours, c'est pas il y a 15 jours, c'est il y a quelques jours. Donc effectivement, ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas, qui sont récalcitrants et qui se comportent de manière un peu irresponsable. Mais aujourd'hui, moi je pense effectivement qu'on va aller vers un confinement total, parce que l'épidémie, elle est en cours de progression et qu'on n'a pas atteint le pic épidémique. Donc je pense que oui, et je trouve regrettable que Muriel Pénicaud, hier, expliquait que il fallait quand même aller travailler parce qu'on prend les mesures. Elle demandait aux employeurs, aux entreprises, de prendre les mesures de protection des salariés. Enfin, là, j'ai envie de dire, des fois, on rêve, quoi. C'est le syndrome Tchernobyl. Soit la crise sanitaire, elle est majeure.
Oui, mais enfin, vous êtes bien d'accord qu'il y a des gens qui sont obligés aujourd'hui de travailler. Tout ce qui est l'agroalimentaire, tout ce qui sont les routiers... Et on ne peut pas dire à tout le monde, restez chez vous. Dans ce cas-là, vous n'êtes plus...
Je vais vous dire, les routiers, ils sont en train de se mettre en retrait progressivement.
Et les policiers aussi, je vous signale, il y a des de plus en plus...
qui sont fortement touchés par des infections. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont travailler alors que c'est pas forcément absolument nécessaire parce que le message n'est pas clair. Voilà. Et je le dis, je pense qu'effectivement.
Alors, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui est un. Alors, Najwa, on va ouais. marquer une petite pause. 0826 300 300. On vous attend si vous voulez réagir. C'est quoi un métier qui est indispensable ? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. À tout de suite avec vous.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. On est avec vous sur Sud Radio, chacun confiné. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Najwa Laïté, docteur en droit public. Vous avez publié Laïcité et République et vous êtes présidente de Territoire de Progrès. Vous m'entendez ?
Oui, en fait, vice-présidente. Le président, d'accord. C'est Gilles Savary.
D'accord. Et puis Alexis Bachelet, ancien député PS avec nous également, aujourd'hui chef d'entreprise, et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Donc je vous posais la question, vous me disiez tous, il faut des mesures plus fortes. Marine Le Pen a proposé un couvre-feu. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ?
Elle a déjà été évoquée, hein, cette mesure de couvre-feu à 18h. Mais moi, pour revenir rapidement à cette question de dire si ou non les mesures de confinement, à mon avis, bien sûr qu'il faut les durcir, puisqu'on le voit, les gens, enfin certaines personnes ne respectent pas les mesures de confinement. Ce sont des dangers pour eux, mais également pour les autres. Et puis, je crois que c'est Jackie Isabello ou Pascal Bataille qui disait oui, mais il faut prendre le temps avant d'arriver à des mesures de confinement strictes. Il faut expliquer aux Français. Sauf que je pense que les médecins déjà dans les médias, et là je vais citer le professeur Juvin, qui est le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, mais également le syndicat des internes de médecine, il ne cesse de dire restez chez vous, ce virus est un danger pour vous, pour vos proches. Et donc je pense que les Français, dans leur majorité, prennent la mesure du danger. Et il y a certaines personnes, en effet, qui brave l'autorité, et ça c'est tout à fait irresponsable. Donc des mesures de confinement.
Mais alors on fait quoi ? On augmente les amendes, on met un couvre-feu. Comment on fait respecter le couvre-feu et les amendes ? Je vous recite encore ces faits rapportés par Le Parisien, donc scandaleux, moi qui me révolte, de ces jeunes qui ont attaqué.
Et le couvre-feu à 18h d'ailleurs, qui a déjà été évoqué comme je le disais, est une mesure aussi, est une des propositions qui peuvent
mais
être
comment faites. On fait respecter aujourd'hui la loi? J'ai entendu Linda Kebab qui disait que les policiers se faisaient cracher dessus dans certains endroits pour ne pas être verbalisés. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Je sais pas qui. Alors on va en garde à vue, hein.
Elles ont été libérées, les 10 personnes qui ont été interpellées hier ont été libérées pour des faits non caractérisés. Donc, ils vont recommencer ce soir. Jackie Isabello.
Non, mais je crois que
c'est pas la justice, c'est là, c'est.
Oui, oui.
Alors, Jackie.
C'est déplorable, qui sont des cas extrêmes, et je crois que la puissance publique doit s'en saisir. Ces gens-là doivent être traités avec la plus grande fermeté, ça me paraît évident. Mais moi, honnêtement, au-delà de ces quelques cas comme ça, qui sont sans doute très nombreux et qui sont tout à fait regrettables, et il faut la plus grande fermeté encore une fois, je crois que l'état d'esprit est important. Je vais lancer un pavé dans la mare. Faisons une semaine d'émission dans 3 mois pour essayer de voir si on est prêt quand il y aura un incendie majeur, pour voir si on est prêt pour une nouvelle crise sanitaire. Non, par contre, de passer 3 plombes sur le homard de Monsieur Durugy, alors là, par contre, on va écouter, on va lire Mediapart dans tous les sens, on va essayer de savoir si le homard, il avait les yeux bleus, si lui-même, il avait mangé du champagne, s'il avait bu du champagne. Ça,
oui,
par contre,
c'est pas le sujet.
Parce que ce dont parle Pascal Bataille tout à l'heure, ça fait partie des rapports de l'IRSEM. Tous les think tanks, que ce soit de la CIA, en passant par la revue stratégique de l'armée, qui est fait tous les 4 ans, ces scénarios-là, on les a faits. Et on sait très bien qu'on va être confronté à tout ça. Alors, je dis pas qu'il faut passer la journée là-dessus, mais de manière générale, on a besoin de revenir sur un dispositif général de protection de sociétés qui sont hyper liquides, qui sont
sont interpénétrés par tout un tas de courants, et dès lors que vous mettez quelque chose comme un virus, plus rien ne fonctionne, et la concorde n'existe plus. C'est quand même ça. À l'origine, Valérie, vous qui faites de la radio, on ne peut pas s'improviser à faire de la radio, donc on ne peut pas s'improviser à faire de la gestion de crise demain. Le problème, il est là, et on n'est absolument pas prêt. Et si dans un an, on a le même problème, eh bien, on ne sera pas prêt parce que nous ne voulons pas accorder de l'attention à tous ces sujets. Et à un moment ou à un autre, il faudra quand même que l'ensemble des forces en présence soient en capacité de dire à la population, repassez votre secourisme, apprenez les gestes essentiels, qu'est-ce que ça veut dire un confinement, est-ce qu'il y a des vidéos qui existent, est-ce que je fais partie d'une profession essentielle à ce que la société puisse fonctionner, et tout ça, on n'y accorde absolument aucun intérêt.
Pascal Bataille.
Oui, après Alexis Bachelet, avec ce que dit Jacques, il y a le court terme et il y a le moyen et long terme, et il faudra absolument que là encore cette crise nous apporte la possibilité de tirer des leçons, que ce soit au niveau individuel, dans le changement de certains de nos paradigmes, et dans notre façon de voir certaines choses, ou au niveau de l'ensemble de la collectivité, et puis de gouvernants, pour être mieux préparés à la prochaine crise, car il y en aura d'autres, bien évidemment, qu'elles soient sanitaires ou d'autres, mais il y aura d'autres crises sanitaires notamment. Mais il y a l'urgence aujourd'hui, évidemment, c'est d'éviter que l'épidémie ne se répande davantage. Elle se répandra encore pendant sans doute une dizaine, une quinzaine de jours, peut-être un peu plus selon les avis. Je ne suis pas du tout scientifique. Malheureusement, je n'étais aucune vérité en la matière, mais il faut prendre des mesures. On a su, je pense, réprimer parfois de façon incroyablement violente les mouvements des Gilets jaunes, et on ne serait pas capable aujourd'hui de faire respecter la loi sur le confinement. Je pense que si on veut s'en donner les moyens, on a les moyens, sans recourir encore une fois à l'article 16. L'un de nos intervenants en parlait hier, et je pense qu'il faut néanmoins que la démocratie continue d'exister dans notre pays et ne pas donner tous les pouvoirs à une seule personne. Hein, donc il faut que les choses soient contrôlées, mais dans le cadre du contrôle et du respect de nos lois démocratiques, on peut durcir sévèrement aujourd'hui les contrôles, et on peut faire en sorte, je pense qu'on en a les moyens, que le confinement soit respecté, qu'il soit durci pendant au moins, je pense, une quinzaine de jours, trois semaines. Encore, il faut écouter les scientifiques et suivre leurs avis. Ce que je voudrais dire juste, Valérie, en deux secondes, parce que ça me semble important, ce confinement, il faut le durcir, il faut faire attention quand même à quelque chose. Je ne sais pas si c'est Jacques Bello ou Alexis Bachelet qui parlait tout à l'heure du fait d'arrêter de travailler. Attention quand même à ne pas mettre l'économie à l'arrêt à un point tel que l'inertie soit impossible ensuite de remettre en route
l'économie en route.
Une crise sanitaire.
Qui aura lieu. On a besoin des agriculteurs, on a besoin de la production de l'industrie agroalimentaire, on a besoin évidemment de la santé, on a besoin de l'énergie, on a besoin de l'hygiène, on a besoin des médecins. J'apprends avec stupeur hier que certains médecins spécialistes ont fermé leur cabinet complètement, n'assurent même pas les urgences. Je ne comprends pas très bien, ils ont prêté le serment d'Hippocrate comme les autres. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce que l'économie ne soit pas ralentie à un point tel qu'il soit impossible ensuite de la relancer, et que les conséquences soient encore plus catastrophiques que ne pourrait l'être l'épidémie elle-même.
Donc, mais vous voyez bien que la nuance, elle est très compliquée quand on entend Emmanuel Macron. Elle est très difficile. Qu'est-ce qui est essentiel? Les vétérinaires, par exemple, ont interdiction de vacciner les animaux. Mais en même temps, ceux qui sont restés ouverts ont le droit de vendre de la nourriture. Donc il y a des espèces d'incohérences. Alors on entendait Bruno Le Maire hier, on l'a évoqué tout à l'heure. Les libraires devraient ouvrir, mais non.
On apprend en faisant, Valérie, aujourd'hui, on le constate tous, je pense.
Oui, c'est ça, on apprend en faisant, bien sûr.
On n'est pas préparé, donc forcément il y a des erreurs, forcément il y a des contradictions dans le discours et entre le discours et les faits. Néanmoins, je pense qu'il faut, faut réagir vite, il faut tirer les leçons chaque jour de ce qui s'est passé la veille, et aujourd'hui, puisque c'est une des questions qu'on nous posait, je pense, oui, qu'il faut durcir absolument et très vite les mesures de confinement.
Mais durcir les mesures de confinement. Oui, Alexis Bachelet.
Moi, je vais faire comme Jackie Isabello, je vais mettre aussi un autre pavé dans la mare. On peut se poser la question, est-ce que les mesures les plus contraignantes n'ont pas été retardées au maximum pour, par rapport au raisonnement que développe Pascal Bataille, ne pas mettre l'économie par terre et par crainte effectivement de mettre le pays à l'arrêt. Je pense qu'il y a eu ces débats-là au sein du gouvernement.
Je
rappelle quand même que l'état d'urgence sanitaire, il a été décrété depuis hier. Il y a eu le vote d'une loi au Parlement.
Bien sûr.
On est en état d'urgence sanitaire depuis 24 heures. D'accord ? Donc ça veut dire que là, on arrive près du confinement total. On n'est pas loin, effectivement, de demander... On demande déjà une application très forte pour pratiquement tout le monde, sauf un certain nombre de professions, de métiers, évidemment, parce qu'on ne peut pas arrêter toutes les activités. Hein. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent continuer à fonctionner. Mais on est en droit de s'interroger. Moi, je n'ai pas la réponse. Je pose la question. Je me demande si, effectivement, on n'a pas un tout petit peu retardé la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures par crainte de fragiliser l'économie du pays. De toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, finalement, les mesures contraignantes, on y est venu par la force des choses. Parce qu'il y a eu effectivement une obligation de protéger les populations. Donc on y est venu. Est-ce qu'on y est venu au bon moment ? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça réinterroge non seulement, notre capacité à gérer les crises sur le court terme, et ça, j'entends tout ce qui a été dit, mais il faut aller plus loin. Je pense que ça remet en cause aussi les modèles économiques avec la délocalisation des médicaments, des molécules. Aujourd'hui, on ne produit plus un certain nombre de... Je crois qu'il n'y a plus de paracétamol. Il faudra en tirer des conséquences.
Attendez, c'est terminé, Alexis. Oui.
Il faudra en tirer des conséquences sur la mondialisation à outrance, effectivement, qui conduit à ce qu'on ne soit plus dans un pays en capacité de produire un certain nombre un certain nombre d'appareils. J'ai vu qu'aussi pour les appareils l'assistance respiratoire, les Allemands, ils en produisent, mais nous, nous n'en avons pas. Et que les Allemands, ceux qui produisent en ce moment, ils les gardent pour eux-mêmes, ce qui est tout à fait logique. Ils protègent d'abord leur population. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en cascade, c'est pas seulement une meilleure anticipation ou une préparation à la prochaine crise sanitaire qui, sans doute, adviendra, mais on doit déjà gérer celle-là, mais c'est surtout une réflexion sur les modèles économiques et sur la capacité, effectivement, pour chaque pays à se protéger d'une crise sanitaire qui, évidemment, est par nature difficile à anticiper, sauf qu'effectivement, il y a déjà, depuis plusieurs décennies, des scénarios. C'était d'ailleurs pareil pour les attaques terroristes. Il y avait déjà, au niveau chaque pays, chaque service de renseignement de chaque pays, avait élaboré des scénarios sur terrorisme, pandémie. Donc c'est vrai qu'on peut être étonné du fait que dans la réflexion, dans les écrits, il y avait des choses qui étaient déjà prévisibles ou prévues, et que finalement, au moment où ça nous arrive, on a l'impression qu'on est, on a du mal, je dirais, à réagir et à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Alors, Najwa, elle a été.
Alors, par rapport à ça, en effet, je rebondis sur ce qu'a dit Alexis, les mesures de confinement, donc on constate deux réalités qui existent entre les salariés. Il y a ceux qui sont en télétravail et donc qui sont préservés, et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Donc, bien sûr, je pense aux infirmiers, infirmières, les médecins, les policiers, mais aussi, comme vous le rappelez, Valérie, eh bien, notre pays ne peut pas être paralysé. Vous parliez de la grande distribution. Il faut bien que les Français puissent aller faire leurs courses. On parlait également de la... Je t'ai écouté, Alexis. On parlait de la propreté de nos villes. Là aussi, vous avez des agents publics et que je salue, qui eux aussi sont à pied d'œuvre pour que nos villes soient propres. Et aussi les agents publics d'EDF. Donc voilà, notre pays doit continuer à fonctionner. Là où je vais ajouter un point important, c'est que leur employeur, que ce soit l'État ou l'entreprise privée, doit leur assurer des conditions de sécurité optimum. Exactement. Pour exercer leur métier. C'est là où les choses sont importantes de rappeler. Et j'aimerais, j'en profite d'ailleurs d'être à l'antenne, pour mettre en lumière le cas d'Amazon, où là, des pressions inacceptables sont salariés qui ne peuvent pas exercer leur droit de retrait. Et pour le coup, les employés dénoncent un danger grave et imminent concernant leur santé. Là, l'État, d'ailleurs, je crois que c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui est intervenu auprès de ce géant de la vente en ligne pour rappeler quand même les règles. Mais ce genre de comportement et de comportement de ce type d'entreprise, ça c'est à dénoncer fortement. Parce que
oui, alors il y a un droit, on a expliqué qu'il y avait un droit de retrait, il y a un droit de retrait. Allez, c'est Pascal Bataille, allez-y.
Si je peux me permettre.
Non, c'est Jackie.
Jackie. Oui. Vous voyez qu'au fur et à mesure de nos discussions, il y a quelque chose qui émerge. C'est que la notion de santé est un point, mais n'est pas le point le plus important. Et du point qui est fait tous les soirs par le professeur Jérôme Salomon va apparaître quelque chose d'assez terrible au bout d'un moment, c'est que il ne faut pas que ce soit uniquement un médecin qui apparaisse à la télé le soir. De plus en plus, il va y avoir des problèmes de logistique, il va y avoir des problèmes de réglementation, il va y avoir des problèmes de maintien de l'ordre, il va y avoir des problèmes d'interprétation.
Et alors, vous voulez qu'on fasse quoi?
Et donc, je pense très rapidement, et il aurait fallu le faire un peu plus tôt, qu'il faudrait demander au général Lecointe, qui est le chef d'état-major des armées, d'expliquer aussi comment on met en branle l'ensemble des forces régaliennes de l'État pour permettre à la société de continuer de fonctionner. Là, aujourd'hui, il n'y a pas que les hôpitaux. Alors, on appelle les armées en disant on va déployer un hôpital de campagne près de Mulhouse. Mais de manière générale, peut-être qu'il y aura besoin de troupes dans la rue pour que ceux qui finissent par pas rentrer rentrent un petit peu plus vite, que la logistique soit gérée, parce que ceux qui gèrent le mieux la logistique sur tous les théâtres les plus compliqués, ça a toujours été l'armée. Donc, à un moment...
Enfin, vous lirez dans le Figaro l'interview du général Desportes,
d'accord avec lui surtout d'ailleurs.
Oui, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'il n'est pas d'accord avec, ce que vous dites, qu'il dit la guerre, c'est la guerre, il y a une armée, il y a un adversaire, il y a un gagnant, il y a un perdant, et il y a des armes, et c'est pas exactement la même chose. Mais bon, c'est à lire, effectivement, pour avoir un point de vue un peu différent. Allez, on se retrouve dans un instant, on aura Didier en ligne avec nous, 0826 300 300. Dites-nous ce que vous ressentez pendant ce confinement, et si c'est bel et bien observé autour de vous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff, évidemment, qui est chez lui et qui vous attend également. Vous pouvez participer 0826 300 300. Jackie Isabello, Alexis Bachelet, Pascal Bataille et Najwa El Aïwa sont avec nous. On a Didier en ligne avec nous, qui nous appelle de Beaucaire. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Bonjour. Je voulais dire que en fait, on aura un gain de temps en fermant toutes les usines qui ne sont pas indispensables. Vraiment un gain de temps parce qu'on va y arriver. On va fermer Amazon, on va fermer dans pas longtemps si on continue à être confiné. Si c'est vraiment le confinement qui est la source d'arrêter la maladie, en fait, il faut fermer. Il faut vite fermer. En fait, on va gagner du temps, sinon ça va durer éternellement. Oui, si on nous dit de rester chez nous et qu'il y a 900 personnes qui travaillent dans un hangar, automatiquement, il va y avoir des gens qui vont se contaminer.
Ouais. Vous êtes concerné, vous travaillez, vous continuez de travailler, Didier?
Comment?
Vous travaillez, vous?
Non, je ne travaille pas, je suis à la maison, non, je ne travaille pas.
D'accord. Mais vous,
voilà, ma compagnie médecin, on s'est demandé s'il fallait continuer ou pas. On a eu des masques hier matin. En fait, les gens qui ferment, les spécialistes, j'ai entendu tout à l'heure qui fermaient leur boutique, les spécialistes, mais s'ils ne sont pas armés pour recevoir les patients, je comprends qu'ils ferment.
Ouais.
Il y a une chose, et puis deuxièmement...
Il y a des médecins qui ferment chez vous?
Comment?
Il y a des médecins qui ferment chez vous?
Non, j'ai entendu tout à l'heure, tout à l'heure quelqu'un qui a dit sur votre antenne que...
Les spécialistes.
Voilà, donc moi je pense qu'il faut vraiment fermer maintenant.
Ah oui, tout fermer, oui, absolument.
On va le faire. Merci. On va le faire dans 2-3 jours. Ce gouvernement...
Oui, mais on peut pas tout fermer. C'est ce qu'on expliquait aussi. Sinon, vous n'avez plus d'approvisionnement. Vous n'avez plus rien à manger, plus rien de... Donc, il faut prendre des mesures. On a Claudine, une auditrice, qui nous dit Toulouse pour Airbus. Rien, pas de précaution. Les gens travaillent sans aucune précaution, aucune règle de distance. Pourtant, un bien grand groupe. Je ne sais pas si ce que dit rapporte Claudine est vrai. J'ai tendance à la croire si elle le dit. J'entendais aussi ce matin où j'ai lu le témoignage d'une dame qui disait que sa fille travaillait dans une usine de découpe troupe de volailles et qu'elle craquait parce qu'il n'y avait pas de distance entre les salariés. Donc,
et pareil dans les bureaux de poste, dans certains bureaux de poste, hein, les gens font la queue les uns sur les autres. Moi, j'ai vu ça. Oui, mais il y en a qui sont ouverts. Et ce que dit Didier, c'est un peu ce que j'essayais de faire passer comme message. C'est de dire, est-ce qu'en ne restreignant pas suffisamment les activités, on ne risque pas de prolonger la crise, parce qu'on croit, ce qu'on croit gagner sur la crise économique, qui va évidemment suivre la crise sanitaire, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être mises en difficulté, et on ne mésestime pas cette réalité. Néanmoins, en tardant à prendre un certain nombre de mesures, peut-être en tardant à aller vers le confinement total, est-ce qu'on risque pas effectivement de laisser se propager le virus plus longtemps et de manière plus insidieuse, et donc derrière une crise sanitaire qui durera plus longtemps que si on avait pris tout de suite les mesures les plus strictes. C'est ça, moi, que j'essayais de faire passer comme message. J'ai évidemment pas envie que l'économie s'arrête, que toutes les entreprises mettent la clé sous la porte, etc. Je suis moi-même entrepreneur, donc je comprends bien les enjeux qu'on peut avoir au niveau financier et économique. Néanmoins, on peut s'interroger comme citoyen sur le fait que, ne prenant pas immédiatement les mesures les plus draconiennes, et je pense notamment les transports continuent de fonctionner, est-ce que l'usine Airbus, si elle fonctionne, est-ce que c'est indispensable aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûr. On peut se poser la question sur Amazon et même sur l'industrie agroalimentaire, parce que Najwa disait il faut bien qu'on continue à se nourrir. Mais enfin, pardon.
Quand bah oui, tu fais comment
bah, je t'explique.
Bah, toi, tu te nourris pas.
Non, je t'explique. C'est que quand on est en guerre, pendant la guerre, il y a du rationnement. C'est-à-dire que pendant la guerre, les gens se précipitent pas comme des dingues pour acheter des tonnes de nourriture parce que, effectivement, c'est plus possible de fonctionner de cette manière-là et de consommer.
Je vais te dire, je préfère qu'ils se précipitent sur la nourriture et de manière en respectant les règles de sécurité plutôt qu'ils se précipitent à acheter des armes comme aux États-Unis, tu vois.
Dans les dernières 48 heures, il y avait des gens qui se bousculaient. Pour un morceau de viande.
Mais ça, on est d'accord, donc, c'est des comportements qui sont pas acceptables. Mais tu peux pas dire que dans des secteurs essentiels la grande distribution et même l'électricité, tu crois que l'électricité, ça nous arrive comme ça chez nous. Il y a des gens qui travaillent derrière la propreté de nos villes. Il y a aussi des agents publics qui travaillent pour la propreté de nos villes.
Toi, ça te choque pas que Airbus, il continue à assembler des Airbus dans ce contexte-là.
Ça veut dire que tu ne m'as pas écouté, Alexis. Moi, j'ai dit qu'il y a une responsabilité des employeurs, que ce soit l'État ou l'entreprise privée, qui doit assurer les conditions de sécurité optimum pour leurs agents ou pour leurs salariés.
Je pense malheureusement que c'est loin d'être le cas.
Qui voulait intervenir juste...
Moi, je voudrais intervenir parce qu'effectivement, Pascal Bataille, rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alexis Bachelet, puisqu'il vient d'être dit par Jackie et par Alain Joie, c'est qu'on ne peut pas mettre notre économie à l'arrêt. En revanche, c'est vrai que, comme le disait Alexis Bachelet, on a certainement beaucoup trop tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver l'économie. Or, on a besoin de donner un très brutal à la propagation de l'épidémie, et pour ça il faut absolument durcir le confinement pendant un certain nombre de semaines. On a des exemples quand même qui nous montrent que en Chine ça a fonctionné, il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis 48 heures, pour autant qu'on puisse considérer que la Chine dise la vérité, il n'y aurait pas eu de nouveaux cas en Chine depuis 48 heures, donc ça marche effectivement si on prend des mesures absolument concrètes, fermes,
draconiennes
et qu'on les fait respecter. En revanche, effectivement, on ne peut pas arrêter totalement l'économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on fournisse aux gens qui continuent de travailler les moyens de se protéger et de continuer à travailler dans des conditions sanitaires correctes et acceptables. Et je pense que aujourd'hui, l'effort de nos gouvernants, c'est pas à nous autour de cette table de décider si Airbus doit continuer à travailler et si Amazon doit s'arrêter, etc. Je pense que nous n'en avons pas forcément toutes les compétences et surtout toutes les informations nécessaires pour savoir qui doit continuer à travailler ou pas.
Mais il y a des gens qui ont fait confiance, qu'on a élus pour ça
et qui doivent décider. Et je suis tout à fait d'accord avec, je crois que c'était Alexis qui disait tout à l'heure qu'il faudrait qu'on n'ait pas simplement un directeur de la santé qui intervienne le soir. On a besoin d'informations. On a besoin d'informations, on a besoin de faire passer des messages qui sont autres que le bilan, le tragique bilan des morts et du nombre de contaminés chaque soir. Et des messages concrets. Il y a des gens aujourd'hui qui se sentent en vacances, qui sont en vacances. Oui. Non, on n'est pas en vacances, on est en guerre, comme le rappelaient plusieurs de nos intervenants. On est en guerre. Aujourd'hui, il faut une mobilisation. Il ne faut pas que le pays s'arrête. Ça n'est pas possible.
Mais le président de la République ne met pas en phase son discours et les images qu'il envoie en termes de communication à la population. Je veux bien être en désaccord avec Vincent Desportes, mais quand le président, qui est quand même le chef des armées, dit qu'on est en guerre, en face, il n'y a pas qu'un problème de santé publique. On le voit bien aujourd'hui, on n'arrête pas de parler d'économie, on n'arrête pas de parler d'organisation, de logistique, de force, de maintien de l'ordre, de concorde publique, de un tel a-t-il le droit de faire ceci et cela, et on voit bien que l'ensemble des dispositifs généraux de gestion de crise ne sont pas maîtrisés. Le dispositif général de gestion de crise, il est au sein d'une direction qui est au ministère de l'Intérieur, au sein du COGIC. Donc, ce n'est pas au ministère de la Santé, même s'il y a une cellule de gestion de crise sanitaire. Mais là, on a dépassé tout ça. Et c'est là où on voit bien que ces dispositifs-là n'étaient absolument pas préparés, n'étaient pas décrits, n'avaient pas été répétés avec l'ensemble des hauts fonctionnaires et avec l'ensemble des forces régaliennes du pays. Et vous allez voir que ça va se dégrader parce que
on peut s'interroger. C'est
au-delà de savoir si on sort ou pas, c'est que ça va atteindre les populations d'un point de vue psychologique. De rester chez eux, ça va atteindre les gens. De plus en plus, les gens vont
avoir mal
Donc, il faut pas relire, faut pas lire, relire Sartre huis clos.
Relire Pascal parce que Pascal écrivait tout le malheur des hommes et de ne pas savoir se tenir en repos dans une chambre. Et peut-être qu'aujourd'hui, on devrait méditer un peu cette phrase.
Oui, on a un témoignage d'un auditeur qui nous dit
« prise de recul.
Chez moi, nous dit un auditeur, chez moi, un médecin positif, hier du coup tout le cabinet en quarantaine, c'est bien leur maison médicale, mais plus du coup plus de médecins, plus d'infirmières, plus de kinés pour ceux qui ont d'autres pathologies, et si on a besoin, bah, l'autre médecin il est à 17 km, donc c'est cette question-là, je suis d'accord avec tout ce qu'on entend, mais la question elle est aussi, et il faudra régler le problème un jour, de ces masques qui ont manqué, et de ce qu'on évoquait avec le docteur le professeur Juvin, sur le fait que c'est pas normal qu'en France on se retrouve à faire la guerre en tongs, c'est-à-dire sans masque pour les soignants. Et puis cette question du masque, où on nous a dit un coup que c'était pas nécessaire, hein, le coup d'après c'était nécessaire. On a bien vu que les pays asiatiques, quand même, qui avaient l'habitude d'avoir des masques, ont mieux affronté la maladie que nous, hein, mieux ce virus. Merci à tous les quatre. Merci auditeurs de Sud Radio. On se retrouve nous lundi. Très bon week-end confiné chez vous. Ne sortez pas. Je vois aussi des témoignages de gens qui sont sortis à 20 mètres, à 200 mètres de chez eux et qui se sont fait engueuler, pas trop d'amende, mais par les policiers qui leur disaient que non, on ne sort pas. Voilà. Donc je pense que les mesures vont effectivement être de plus en plus drastiques. Merci à vous. Bon week-end.